Говорит Москва.
J'ai déjà publié sur la vieillesse il y a 40 ans pratiquement chez Robert Laffont. Le livre s'appelait Éloge de l'âge et j'avais 30 ans quand je l'ai publié et je l'interroge en ce moment tous les matins en le relisant et en commentant ce que je relis en me disant à moi-même, est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu disais ?
Bonjour à tous, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast. C'est le podcast du mois, c'est le 13e podcast, puisque cette année, nous en avons rajouté. Vous savez que nous faisons des podcasts supplémentaires chaque fois que l'actualité l'exige. J'ai le plaisir de recevoir Christian Combaz. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Christian Combaz, vous savez, qui fait les chroniques de Campagnol, ce sont des chroniques hebdomadaires qui, personnellement, me mettent en joie chaque lundi soir. Mais il faut quand même dire que c'est une sacrée performance que d'enregistrer une chronique hebdomadaire de 40 minutes. Et il est normal que notre chroniqueur prenne un peu de champ, fasse une pause estivale. L'année dernière, il était revenu avec un livre intitulé « À l'endroit ». Et cette année, il écrit quelque chose que je qualifierais, ça n'engage que moi, d'un peu introspectif, puisqu'il examine un ouvrage qu'il avait écrit il y a 40 ans qui s'appelait « L'éloge de l'âge ». Et il est arrivé maintenant, l'âge venant, à l'âge du rôle. Et ma foi, c'est un exercice extrêmement intéressant, puisqu'il fait un peu une comparaison de ce qu'il avait écrit à l'époque. Et nous abordons ce sujet, le sujet du vieillissement, surtout à un moment où nos dirigeants sont en train d'imposer une fin de vie brutale. Christian Combaz évoque la fin de vie qui est la fin de vie en douceur où, en quelque sorte, le temps vient où on doit ranger ses affaires, renoncer, prendre du recul pour finir par tourner la page, ma foi. C'est précisément de ça qu'aujourd'hui nos dirigeants veulent nous priver. Mais je vous rassure, Christian Combaz est un éternel optimiste, mais pas un optimiste béat, hein, c'est un optimiste qui, son optimisme est, et il le dit, est issu de ses analyses. Donc, je vous propose d'arrêter là mon verbiage et de lui laisser la parole. Je vous retrouve tout de suite. Christian Combaz, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai beaucoup de plaisir à vous avoir. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de venir. Réponse que vous m'avez donnée presque immédiatement, je vous en remercie. Je vais vous dire parce que, en fait, vous faites partie de ces gens qui nous mettent en joie et je sais que je suis pas le seul. Tous les lundis soirs, c'est vrai que c'est quand on vous est le lundi, c'est jamais une journée facile.
Ouais.
Pour ceux qui travaillent. Et le lundi soir, ça fait plaisir d'avoir son campagnol. Or, pendant l'été, vous faites une pause, en général, pour écrire.
Oui, absolument.
Ou pour toute autre chose. Et évidemment, je me suis dit que ce serait bien d'avoir quand même un petit peu de vous voler une petite heure d'entretien pour, d'abord pour savoir comment vous allez.
Je vous l'accorde bien volontiers.
Ensuite, pour vous remercier parce que vous m'avez reçu à Campagnol et j'ai passé, vous m'avez fait visiter le Novak's Bar avec tous ces écrans et ces synthétiseurs et un très bon moment que vous nous avez fait passer à mon épouse et moi-même. Et c'était très, très agréable de vous rencontrer, surtout de faire connaissance avec votre univers, de ressentir les choses, votre univers sur place. Pour moi, ce sont des choses qui sont très importantes et je vous en remercie.
Alors, vous avez écrit l'année dernière, justement, durant cette pause estivale, vous
Oui.
avez écrit À l'endroit, qui est une
Oui.
sorte de conversation avec Léon, Léon qui, on peut dire, qui devine, qui a des visions, des
Des
intuitions.
intuitions, voilà.
Des intuitions, mais des intuitions qui. On va espérer que ces intuitions, finalement se réalisent, puisque votre livre se termine de manière extrêmement optimiste, puisque Léon nous prédit un âge d'or, et c'est d'ailleurs sur le mot or que se termine votre livre.
Oui, absolument. Mais j'ai des arguments en faveur de ça.
Vous avez beaucoup d'arguments. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement, oui, mais bon, ça vient pas. Il avait promis que, enfin, je parle de Léon, bien sûr, pas de vous.
Oui. Mais ça, c'est effectivement une critique assez récurrente, mais toujours bienveillante quand même. La
Bien
plupart
sûr.
des gens ne... Bon. Mais et Léon répond une chose que j'aurais pu répondre à sa place. Quand on a l'intuition d'un changement, d'un événement, d'une solution logique à une crise, cette intuition, c'est très difficile de la dater, de dater l'événement qu'on a vu se profiler. C'est ça qui est la logique. Logique veut quelque chose et le réel peut faire que ça ne se produira que dans 2 ans. Je vous donne un exemple. Il y a 8 ans exactement, j'ai annoncé que Philippe de Villiers retrouverait une sorte de plausibilité dans le jeu, dans l'opinion française, comme homme politique éventuellement providentiel, parce qu'il coche, comme on dit, toutes les cases. Il a été ministre, il a été candidat à la présidence, etc. En tout cas, il y a 8 ans, le fait de dire ça et de le faire dire à mon devin passait pour une idiotie. Et en fait, graduellement, quand vous avez vu Zemmour se pointer et Villiers emprunter le même chemin derrière lui, et puis quand vous avez vu qu'il a obtenu cette émission de télévision qui est quand même une extraordinaire tribune, quoi qu'on veuille, face à l'opinion française qui lui a été accordée par Bolloré, évidemment pas pour rien, il y a un projet derrière, et ça fait 2, 3 ans que il tient ses partisans et les gens qui réfléchissent en haleine, et on est de plus en plus nombreux à penser que si vraiment la situation devient chaotique en France, il est l'un des rares qui puisse donner l'impression d'un ordre, d'un renouveau de l'ordre en France, de manière assez naturelle. Les gens ne lui obéiraient pas par attachement, par adhésion personnelle, mais parce qu'il est le seul. Tout simplement. Il est le seul qui ait à peu près la stature du rôle et qui puisse donc recevoir un investissement mental de la part des gens qui veulent que
Une
ça
adhésion
cesse.
intellectuelle, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que même si on n'est pas d'accord, même s'il a des ridicules, même s'il a une voix éraillée et s'il joue les marquis, il a un poids, il a une perception de l'histoire de France, il sait où nous en sommes, il sait d'où vient la France d'aujourd'hui, et on espère qu'il sait où elle va. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il est dans la position de quelqu'un à qui on demanderait d'assurer l'intérim. Et je ne suis pas convaincu que si on le persuade qu'il s'agit réellement d'un intérim et non d'une espèce de mandat très très solennel qui durerait 5 ans voire davantage parce qu'il a plus l'âge, eh bien si il arrive à se convaincre de cette courte période de 2, 3 ans où il passerait pour le sauveur qui tire son chapeau quand les choses se sont calmées, ben on serait content que ça se passe ainsi. Enfin, moi je
Et
suis
lui,
content.
qu'est-ce qu'il en pense?
Alors écoutez, on n'a pas de relation directe, mais évidemment il a entendu
Enfin,
un
c'est
écho de
arrivé
ce
à
que...
ses oreilles quand même.
Oui, parce que ça fait des années que je le dis, que je le
Oui.
fais dire à mon devin, et je crois savoir qu'il est très attentif à tout ce qui se dit à son sujet et au sujet de la France. Donc, et puis forcément, il a des partisans et des amis qui lui disent, ah, il y a un type marrant. Et donc, voilà, ça, à mon avis, depuis 10 ans que ma chronique hebdomadaire dure, il est évident que
le fait que je vois en lui une sorte de recours malgré lui. Ce que je fais dire à mon devin, c'est que il ira à reculons de toute façon.
Non, mais tous les recours, ils vont à reculons. À part de Gaulle, évidemment, qui lui ne rêvait que de ça. Mais sinon, tous les recours, ils vont avoir un reculon, en principe.
Alors donc, il suffit de le rassurer pour lui dire, vous ne serez pas, vous ne deviendrez pas pour autant la bête noire en 6 mois. Au contraire, les gens ont besoin d'avoir un espoir et vous l'incarnez. Je pense qu'il peut s'en convaincre assez facilement. Du coup, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très utile à la France d'avoir un espoir incarné. Et peu importe le personnage sur lequel il s'incarne. Ça pourrait être le duc d'Anjou aussi, mais le duc d'Anjou, j'y crois pas beaucoup parce que c'est un genre de cadre de banque qui dit celles et ceux, alors que j'aime pas beaucoup ça. Un descendant de prince, un prétendant éventuel au trône, ne dit pas celles et ceux.
D'une
Vous voyez ce que je veux
part, et
dire?
puis je vois très très bien ce que vous voulez dire, et puis d'autre part, moi quand je vois la dégénérescence des descendants, enfin quand vous imaginez que le prince Philippe d'Espagne, ou même que le roi Juan Carlos descend directement de Louis XIV, en ligne directe de Louis XIV, ça la fout quand même un peu mal. Là, ça, je vous avoue que je suis pas très très personnellement,
Bah,
je n'aime
écoutez,
pas.
je sais pas, mais en tout cas, le prince Juan Carlos a prouvé qu'il n'était pas d'une qualité morale
C'est ça,
exceptionnelle.
c'est ça.
Et donc, voilà, c'est ça qui est un peu triste. Alors, méfions-nous quand même des petits-enfants. Le duc d'Anjou a un fils qui doit approcher des 16 ou 17 ans. Ça, c'est tout à fait le genre de profil qui peut monter sur un cheval blanc en disant « je représente l'espoir », etc. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ce que je pense, c'est que dans la politique française prochaine, immédiate, là, il va y avoir des événements qui vont être des bouleversements de même nature que l'épisode napoléonien. Il va y avoir forcément des choses qui vont remuer le tissu social, pas vraiment le tissu social d'ailleurs, qui vont réveiller le tissu social ancien, mais qui vont remuer les gens de l'actualité de fond en comble. C'est-à-dire tous ces gens qui sont des profiteurs, on voit bien avec la France de Nagui, quoi, où on se met des millions d'euros dans la poche pour présenter de la chansonnette. Enfin, c'est ahurissant. Tout ça sur fond public, hein. Si c'était une société comme TF1, j'aurais rien contre. Mais en l'occurrence, tous les budgets publics ont été absolument siphonnés par ces gens-là.
Oui, excusez-moi,
Pardon.
poursuivez, poursuivez.
Non, non, c'est tout. Il faut penser que parmi ceux qui financent cet argent siphonné, il y a la pauvre infirmière de campagne qui a du mal à joindre les deux bouts. D'autant
Oui,
plus
puis il y a des hôpitaux qu'on ferme, et il y a
Absolument,
des gens qui sont
absolument.
obligés de faire des femmes qui sont obligées de faire 60 km pour accoucher. Enfin, il y a des trucs
Exactement,
absolument
exactement.
aberrants. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Mais non, je voulais revenir un instant sur De Villiers parce que vous en parlez évidemment souvent, et on voit émerger parmi le nombre qui émerge, on voit émerger Retailleau. Or, Retailleau, c'est intéressant parce que c'est l'anti-Villiers.
Voilà, ils sont ennemis à mort.
Ils sont ennemis à mort. Retailleau a été, enfin, a été aidé il doit le début de sa carrière politique à Villiers, et finalement, Retailleau a trahi, et Villiers
Oui,
l'a
mais
très très
écoutez,
mal pris.
moi je suis très injuste. Je sais pas que je sais un peu parce que j'ai quelques amis russes. J'avais quelques amis russes qui sont tous morts. Mais je sais que les Russes ont gardé cette habitude très amusante, très plaisante, je veux dire, qu'on avait en Europe occidentale il y a un siècle environ, de se douter que le physique des gens a un rapport avec leur âme. Et donc Retailleau, la fausseté du personnage est inscrite sur son visage. De même que j'en faisais la remarque récemment à propos de Le Cornu. Le Cornu, vous regardez Le Cornu quand il parle pas, il a l'air d'un enfant de 10 ans, à la fois lâche, paresseux, prétentieux, effrayant. Il a vraiment son espèce de naïveté grossière sur le visage. Moi, je fais partie des gens, et j'ai le droit, puisque je suis romancier, qui interprète beaucoup la psychologie d'après le visage et qui attribue souvent dans les romans un visage qui correspond à la psychologie.
Alors
Voilà.
justement, il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre. Il y a une image qui est présente du quasi début du livre jusqu'à la fin, c'est ce portrait de Dorian Gray.
Bah
Et
oui.
j'aimerais justement que vous nous en parliez parce que c'est quelque chose de très intéressant. Bon, j'aimerais que vous nous présentiez justement un petit peu ça et disons le portrait du réel que vous mettez en symétrie, en quelque sorte, en parallèle avec
Oui.
le portrait peint.
Oui, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde d'apparence, comme vous le savez, et cette apparence est très souvent, de plus en plus souvent, repeinte à travers la carrière des acteurs, notamment, qui vieillissent. Par exemple, regardez les acteurs américains, jusqu'à John Wayne, jusqu'à Kirk Douglas,
Clint
ils
Eastwood.
suivent. Voilà, il suivait un processus naturel de vieillissement et vous avez à partir des années, grosso modo des années Reagan, un peu plus tard, des années 90, une espèce de désir de se figer dans le temps, à un âge idéal qui serait de 45 ou 48 ans. Et on voit bien Madonna, et Cher, tous ces gens-là. D'ailleurs, c'est pas sans rapport avec plein d'autres sujets que je traite en ce moment à la rentrée. Donc, je vais publier quelque chose sur la vieillesse. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà publié sur la vieillesse il y a 40 ans pratiquement chez Robert Laffont. Le livre s'appelait Éloge de l'âge. Et j'avais 30 ans quand je l'ai publié. Et je l'interroge en ce moment tous les matins en le relisant et en commentant ce que je relis, en me disant à moi-même, est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu disais? Alors évidemment, je suis toujours d'accord avec ce que je disais parce que les choses ont tourné à peu près comme je le pensais. Mais c'est là que ça rejoint la question que vous venez de me poser. Les choses ont tourné de manière incroyablement caricaturale dans le genre replâtrage d'une fausse jeunesse. Moi, je ne pensais pas que, je pensais qu'on en resterait au ridicule des vieux qui apprennent le tennis à 68 ans, le tennis ou le deltaplane. Je veux dire, c'est pas un âge où on apprend les choses, c'est un âge où au contraire, on commence à s'en passer. Et ce que j'expliquais il y a 40 ans, c'est que les vieux sont pas là pour débuter. Ils sont là pour ranger leurs affaires. Et c'est le sens de toute vie humaine. Et c'est aussi le sens de notre culture classique européenne et russe. C'est que la vie a un temps. Quand on a fait son tour de piste, eh bien, on range ses affaires et on attend. Eh bien, aujourd'hui, on n'attend plus, on continue à s'agiter, et donc cette société devient absurde puisque le corollaire de ce que je vous dis, c'est du portrait de Dorian Gray, et qui, je vous le rappelle, est cette histoire de quelqu'un qui, dont le vieillissement est cantonné à son portrait, mais
Oui.
lui reste jeune éternellement et son portrait est de plus en plus loin
C'est-à-dire, c'est le
à la.
portrait qui vieillit, c'est ça?
Absolument, ça, son portrait est à l'abri des regards et c'est son vrai lui, son vrai moi, c'est ce portrait qui devient Kakoshim alors que lui a encore ses 35 ans. Et donc ça finit mal évidemment, comme dans La peau de chagrin, comme dans tous ces films de pacte avec le diable pour l'éternelle jeunesse, c'est qu'à la fin, l'âge vous rattrape tout d'un coup. Et c'est exactement ce qui se produit en ce moment pour l'Occident. L'âge va nous rattraper tout d'un coup parce que c'est un âge moral, c'est un âge de laideur morale qui va s'abattre sur nous, à mon avis, avec la découverte des laideurs criminelles, hautement criminelles de l'affaire Epstein, dans laquelle
Epstein.
l'Occident. Oui, si on veut. Moi, j'ai longtemps dit Epstein parce que je fréquentais beaucoup New York et qu'on disait ça. Mais maintenant que
C'est
la
une
mode
boutade.
est passée, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a une éternelle jeunesse qui va avec une compromission morale éclatante, écrasante. Ces enfants sacrifiés, dit-on, pour des raisons sexuelles, à mon avis, l'ont été pour d'autres raisons aussi.
Oui, vous le dites
Et
très bien dans votre livre.
voilà. Et ces raisons, c'est probablement des œstrogènes de gamines de 12 ans et demi, des cellules fraîches, parce que vous savez que le clonage n'est jouable que si la cellule n'est pas trop âgée, puisque la première brebis qui avait été clonée, vous vous souvenez, elle s'appelait
Dolly.
Dolly. Elle était vieille, enfin, elle était relativement vieille au moment du clonage des cellules. Et bien, l'enfant, le mouton, l'agneau, avait pratiquement l'âge de sa mère.
C'est ça.
Et donc, voilà. Et donc là, ils sont revenus en arrière. On parle plus de clonage, mais à mon avis, ça y va à fond. Dans tous les pays un peu étranges, en Brésil, etc., ça y va à fond. Dès qu'il y a des laboratoires un peu clandestins, ça y va à fond. Alors évidemment, je suis convaincu que ça se pratiquait en Ukraine aussi, pour des raisons qui sont les mêmes que chez Epstein. Je soupçonne qu'il s'agit de trouver un moyen de fabriquer des foetus, des embryons, ou éventuellement des nouveau-nés, ou en tout cas des morts-nés, dont on récupère les tissus immédiatement. Parce que c'est des tissus qui sont par nature régénérants. Vous savez combien le placenta, par exemple, est régénérant. Et donc, dans l'histoire, et je le dis dans le livre que je prépare pour l'automne, cette lutte contre le vieillissement atteint des proportions incroyablement criminelles, du même type que les Lebensborn et les camps de Hitler. C'est que si ces femmes, par exemple, Cher, Hélène DeGeneres, Madonna, etc., sont venues sur l'île en si grand nombre et à tant d'occasions, c'est évidemment pas pour se taper des gamins, des jeunes prostituées. Évidemment pas. C'est pour d'autres traitements. Et pour vous donner un autre exemple, le Stephen Hawking, qui est ce physicien international perclus de rhumatisme nécrosant et qui était à l'article de la mort, littéralement, quand il s'est pointé sur l'île, on ne peut pas imaginer qu'il soit allé là-bas pour tripoter qui que ce soit. C'est évidemment pour essayer de se faire régénérer une dernière fois. Donc,
Bon,
qu'est-ce qui se
après, l'un
passait dans
n'empêche pas
les cas?
l'autre, malheureusement.
Oui, voilà, mais qu'est-ce qui se passait dans les caves? Je pense que vu les lettres qu'on a retrouvées, c'est forcément adossé au crime, c'est-à-dire à l'homicide, etc. Et donc, il y a un côté, docteur Mabuse, effrayant, effrayant. Et du coup, ce qui est très gênant dans toute cette histoire, c'est que ce qui est mouillé, c'est pas seulement deux, trois délinquants, c'est l'Occident officiel tout entier. Et là, Poutine a raison, et Medvedev, enfin, tous ces Lavrov ont raison d'appuyer là où ça fait mal et de dire qu'il y a du satanisme là-dessous. Parce que, ce pacte permanent avec le diable au nom de l'éternelle jeunesse, de la jeunesse qu'on essaie de rattraper sans arrêt, ce pacte a eu là une illustration absolument scandaleuse qui va forcément être révélée. Si elle ne l'est pas par Trump, elle le sera par Poutine ou par les Iraniens, par exemple, puisque Israël est très très mouillé. Donc les Iraniens ont tout intérêt à balancer le dossier et à montrer que la vertu occidentale n'en est pas une. Et là, vous imaginez l'effet sur les BRICS. C'est-à-dire que si vous montrez que l'Occident s'est nourri du sang et des organes de ses propres enfants pendant des années et des années, avec une espèce d'omerta permanente, les BRICS, les Indiens, les Chinois évidemment, enfin tous les Singhalais, tous ces gens-là, et les Africains vont dire, mais attendez, nous on nous a blâmés parce qu'il y avait de la prostitution parmi les fillettes à Bangui ou aux Philippines, mais entre la prostitution d'une fillette de 14 ans et ce que vous avez fait subir à vos propres enfants, il y a un monde, il y a un gouffre. Et donc là, on va vers vraiment une espèce de marchandage moral très très important et qui ne va pas déplaire à tous ces pays du tiers-monde émergents parce que on leur a tellement fait la leçon à propos des vertus de l'Occident que pour une fois, ils ont le dossier des vices de l'Occident entre les mains. Et là, ça va faire mal quand même.
Alors, moi, il y a une chose qui me laisse penser, enfin, disons, qui me, comment je pourrais dire ça, qui me donne envie de vous donner raison, au moins en partie, et en partie seulement, mais je vous dirai pourquoi après. Mais c'est qu'aujourd'hui, si vous écrivez même une fiction, c'est la manière dont se cadre la nomenclatura, l'état profond, enfin les gens qui tiennent les médias, etc. Dès que vous parlez de ça, aujourd'hui, même si vous... Aujourd'hui, je veux dire, dans les années 70, vous écriviez une fiction là-dessus, ça posait aucun problème. Au contraire, Hollywood s'en emparait, en faisait un film et faisait de l'argent avec. Aujourd'hui, ça passe plus, ce genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes un complotiste, vous êtes...
Ah ouais, mais attendez, devant les films, les lettres, tout ça authentifié par le département d'État américain, par le ministère de la Justice, je vous rappelle qu'il y a un vieux juge, plus ou moins métis, je me souviens plus de son nom, qui descendait les marches du ministère de la Justice américain et un journaliste de CNN l'interroge Et il dit, mais les larmes aux yeux, un vieux type de 65 ans, grand et gros, avec les roues flaquettes blanches, qui dit, j'aurais préféré ne pas voir ce que je viens de voir. Et le type, il pleurait presque. Donc, ce dossier a été révélé à une grande partie des professionnels. Et je pense que les professionnels de la justice américaine, eux, ils vont balancer. Ils vont balancer autant qu'ils peuvent, c'est-à-dire d'abord avec des gens déjà morts, et puis peu à peu, ça va se répandre à des gens encore vivants.
Oui, alors y a deux choses sur lesquelles j'ai, disons que je suis un peu en, où mon opinion diverge, c'est que je pense que il n'y a pas que l'Occident qui est mouillé dans cette histoire. C'est-à-dire que quand on connaît le rapport des Chinois avec la santé et tout ça,
Oui.
je conçois mal que les Chinois n'aient pas été tentés de tout de toucher à ce genre de choses. On
Peut-être,
se
mais le mélange entre sexualité hyper déviante et arrachage des organes, ça, c'est quand même
Bon, on se rappelle de la femme de Mao qui avait été accusée à l'époque.
Ah bon? Ouais.
Oui, il y avait que la femme de Mao avait été accusée d'avoir participé à
Ouais.
des manipulations génétiques pour faire passer la barrière des espèces et des choses comme
Ouais,
ça.
ouais, ouais.
Il y a eu quand même des trucs. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je crois que c'est malheureusement pas l'apanage de l'Occident. Mais cela dit, vous avez parfaitement raison quand vous dites que ces gens-là, évidemment, l'Occident ne pourra plus s'ériger en parangon de
Oui,
vertu.
oui, oui.
Ça va plus marcher. Ça,
Et pour revenir au premier sujet, cette affaire a évidemment, d'abord, ça montre les réseaux d'argent, puisqu'en gros, ça ne serait pas si énorme, ce trafic ne serait pas si énorme s'il n'y avait pas beaucoup d'argent en jeu, parce que c'est comme le trafic de drogue, le trafic d'enfants est devenu une sorte de trafic de drogue. Et d'autant plus s'il y a vraiment des histoires d'adrénochrome, ça je ne veux pas entrer dans ce débat, mais si c'était le cas, ce serait l'équivalent du trafic de drogue. Et encore une drogue autrement puissante que la cocaïne. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'autre versant de l'autre pilier sur lequel s'appuie l'affaire Epstein, c'est le désir de l'éternelle jeunesse. Et là, on est en plein dans mon sujet. Et vous allez voir à quel point l'articulation est précise avec nos problèmes d'euthanasie. C'est-à-dire que la société actuelle ne veut pas savoir que l'on vieillit et ne veut pas que l'on vieillisse et se donne tous les moyens, y compris les plus criminels, pour parvenir à ce qu'on ne vieillisse pas. Mais le jour où on vieillit quand même, parce que c'est inévitable, parce qu'il y a des gens qui perdent la raison, leur force, etc. Et là, à ce moment-là, pour éviter d'avoir à admettre cette vérité encombrante, eh bien on leur propose de sortir non plus comme autrefois, comme dans toute la culture classique, par la sagesse progressive d'une fin de vie de 2-3 ans, après quoi on s'éteint doucement dans son sommeil, ou bon, on peut même d'ailleurs s'éteindre en se faisant soi-même une piqûre, mais il y a au moins cette période de vieillesse acceptée, de renoncement à plein de choses et d'abandon des facultés auxquelles on consent parce qu'on a une certaine culture classique, parce qu'on croit en un au-delà, parce que on sait que la finitude d'ici-bas se traduit par un commencement de l'autre côté. Enfin, moi, j'en suis convaincu comme beaucoup. Et donc, toutes ces questions-là, qui étaient inhérente à l'idée de vieillesse au XVIIe et au XVIIIe siècle, tendent à disparaître parce que notre société veut que, au lieu de la disparition progressive de la lumière dans une vie, vous savez, le variateur de lumière comme il
Oui.
y a, hein, eh bien, au lieu de ça, on impose l'interrupteur on-off. Et c'est terrible parce que ça prive les gens d'un moment de réflexion. Même si bref soit-il, ça peut être 3 mois, ce moment de réflexion où ils font le point, ils rangent leurs affaires mentalement, etc. On voit bien que là, avec l'euthanasie, ce qui choque, c'est la précipitation. La précipitation après avoir entretenu l'illusion d'une jeunesse perpétuelle pendant très longtemps, quand on a tiré sur la corde de l'illusion pendant trop longtemps, après, elle se rompt d'un coup. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle l'euthanasie est au fond l'aboutissement naturel de cette société presse-bouton où les gens doivent être presque pleinement actif et réactif jusqu'à 88 ans. Et puis à 89, s'ils perdent 30% de leurs facultés, on leur dit, écoutez, monsieur, ça sert à rien de s'acharner, à les laisser tomber.
Oui, enfin, ce qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est un peu comme la chanson de Brassens, hein, ceux qui le prônent s'attardent ici-bas. C'est-à-dire que les Attali, les grands, ceux qui prônent, donc j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, les Jack Lang et compagnie, ils déclinent.
Attali notamment en ce moment, il est l'ombre de lui-même physiquement.
C'est ça.
Mais le problème au fond, on en arrive toujours à cette même idée qui est très epsteinienne, que nous sommes les happy few et nous, ces règles que nous voulons imposer à la terre entière, nous ne les appliquerons pas pour nous-mêmes.
Oui, alors c'est là la supercherie, c'est-à-dire que eux, ils vous disent que c'est que bien sûr, tout le monde sera logé à la même enseigne. Or, c'est faux. Ouais.
Oui, absolument, absolument. Et donc, ce que je trouve regrettable, c'est vraiment cette trahison de la culture classique qui était, c'est le manuel d'Épictète, c'est tout le renoncement chrétien devant la perspective des fins dernières. Alors même s'il y avait beaucoup de jeux là-dedans et beaucoup d'hypocrisie, il y avait quand même une nécessité sociale universellement admise, même chez les socialistes à la fin du 19e, qui épousaient les idées chrétiennes, quoi que l'on veuille, eh bien, il y avait cette idée que les vieux commencent à restreindre le cercle de leur existence et de leur déplacement, et en général, ils augmentaient le cercle de leurs pensées, de leurs préoccupations et de leurs interrogations. Et dans la philosophie classique, qui était issue du christianisme, il y a beaucoup d'inconnus. Et il y a beaucoup de satisfaction de se dire qu'on est bien peu de choses et que finalement 98% de la réalité nous est inconnue et qu'on se remet à cet inconnu comme s'il était bienveillant par nature. C'est une attitude très classique et très chrétienne. Or, vous observez une chose dans l'Occident mécaniste, technologiste, biologiste, vaccinal, tout ce que vous voulez, enfin le genre Bill Gates, vous observez une chose, c'est que il a épousé les valeurs de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la réalité a un grand architecte dont nous ne connaissons pas tous les plans, mais un jour ce sera le cas. Pour un franc-maçon, il n'y a pas d'inconnaissable par nature. Il y a de l'inconnu, et l'inconnu est fait pour reculer sans cesse. Désolé, mais pour un chrétien, pour tous les mystiques, pour tous les gens, et ça c'est très conforme à l'âme russe, vous le savez, pour tous les gens qui ont un pied dans l'au-delà, en quelque sorte, on ne connaîtra jamais tous les secrets. Et c'est bien ainsi, et parce qu'on est limité, on est fini, et c'est dans notre conscience d'être limité et fini que réside notre grandeur. En revanche, quand vous voyez la gueule de Jack Lang qui est teint jusqu'aux oreilles, il n'y a aucune grandeur, aucune.
Ah non, mais en plus c'est affreux. Je veux dire, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, Jack Lang, je le montre même pas à mes gosses.
Non, c'est vrai, mais attendez, il y a encore pire, il y a Marek Alter, par exemple, il y a des gens comme ça. C'est des gens qui n'ont plus aucune notion commune de la bienséance. On ne peut pas se replâtrer la figure à un tel degré, et on ne peut pas se peindre les cheveux au noir de jais à un tel degré sans être fou. Il y a une folie interne là-dedans. Et cette folie, c'est celle de la matrice mécaniste du monde moderne. Ils pensent, tous ces gens, que s'ils font la même chose qu'il y a 40 ans, les mêmes gestes quotidiens, lever à la même heure, le petit déjeuner dans la même vaisselle, c'est les mêmes genres de relations, de rendez-vous, de téléphone, eh bien, ils ne vieilliront pas. Je connais assez bien ce phénomène que j'ai décrit dans mon premier livre, et je fais un peu ça dans le deuxième. C'est les Américains, les vieux Américains riches font ça tout le temps. Ils pensent qu'en n'altérant pas leur univers quotidien, ils ne s'altèrent pas eux-mêmes, ils ne vieillissent pas.
Oui, mais alors à côté de ça, on fait vivre les gens dans une précarité constante, c'est-à-dire qu'on leur dit en permanence
Ah
vous
oui.
ne garderez pas toute votre vie le même boulot, vous allez devoir changer de boulot et de ville tous les 2 ans,
Oui, vous avez
vous
raison.
déplacer en 50 kilo à 500
Et
kilomètres.
vous avez raison, mais moi, je peux vous dire par expérience, je peux vous dire que ceux qui prônent cette mobilité, comme ils disent, permanente, qui est source en effet d'inconfort et d'inquiétude,
Eux ne
ceux qui
quittent pas leur
prônent
zone de
ça,
confort.
ouais, mais attendez, regardez, moi, j'ai vu à l'œuvre des gens du même ordre, du même acabit que Jacques Lang et Barry Keitel, c'est Roland Dumas, tous ces gens-là, ils sont arrivés jusqu'à 100 ans pratiquement, en ne bougeant pas leurs habitudes, en toujours les mêmes mocassins à la con, les mêmes voitures, le même chauffeur, les mêmes mots au chauffeur tous les matins, mais pendant 48 ans. Vous voyez, et donc, ils pensent que en perpétuant tous ces petits usages du quotidien, eh bien, le temps va les oublier. Et ce qui est terrible, en effet, vous le soulignez, c'est que leur égoïsme se paie de la précarité de tous les gens qu'ils écrasent.
C'est très impressionnant. Alors à propos de francs-maçons, je fais une parenthèse et une digression. J'ai été chargé par un ami à moi qui est un type très sympathique, hein, un garçon qui est aveugle et qui m'a dit et qui habite dans l'Avonage. Il m'a dit, tu donneras, quand il a su que j'avais cette interview avec vous, il m'a dit, tu donneras le bonjour de la part d'un habitant de l'Avonage qui n'est pas franc-maçon.
Oui. Bon, mais il y en a quand même. Moi, j'étais stupéfait quand même en m'installant il y a 40 ans dans le sud de la France, puisque j'ai passé quand même une partie de ma jeunesse jusqu'à 30 ans environ. J'étais à Paris et au fond, la densité des francs-maçons dans la vie urbaine du nord de la France est bien moindre, et deux fois, trois fois moindre que dans le sud. À Avignon, Marseille, Montpellier, Nîmes.
Et
On
le
ne peut plus faire
sud-ouest.
un pas. Vous ne pouvez pas faire un pas, ni mener une affaire, ni faire une démarche sans vous assurer du soutien de ces gens-là.
Et Montauban,
Au
Toulouse, tout
Montauban, n'en
ça,
parlons pas.
c'est vous devriez vous intéresser à la famille Baillet. Enfin, peut-être que vous
Ah
l'avez
bah
déjà
si,
fait.
si, non, mais tout le monde s'y intéresse un peu dans le Languedoc sans s'y intéresser vraiment avec le crayon à la main. Tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et qui sont ces gens-là. Il y a des féodalités dans ce pays qui sont invraisemblables. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous en avez eu le comment dire ils ont retrouvé leur pouvoir, leur puissance écrasante après à la libération en faisant tuer leurs adversaires. Il y a eu une épuration absolument terrible des gens qui avaient fricoté avec la milice et qui s'étaient déclarés anti-franc-mac pendant la guerre, qui ont été absolument laminés partout, en Languedoc, à
Alors
Toulouse.
que même on fricotait avec la milice, précisément, je veux dire.
Bah, oui, mais ça, le truc, c'est que eux, ils sont du bon côté. Ça a donné la France de Jospin après, vous voyez, et les Lambertistes, etc. Moi, j'ai fait l'ENA, j'ai pas fait l'ENA, pardon. J'ai fait Sciences Po, mais j'ai surtout beaucoup d'amis ENA qui eux ont fait l'ENA, etc. Et à l'époque où je fréquentais ce milieu Sciences Po ENA, avant de bifurquer vers les lettres et vers le journalisme, eh bien, j'ai entendu tous ces gens être horriblement tiers-mondistes. Et par exemple, les jeunes juifs militants, Ligue communiste révolutionnaire de Sciences Po de l'époque disaient nos frères arabes. Ils militaient ouvertement pour Yasser Arafat, pour l'entente entre les colons juifs et les arabes. Il y avait à l'époque, je vous parle de 1975-80, il y avait l'illusion selon laquelle ça y est, c'était réglé le problème en Palestine, tout le monde s'entendait bien. Et donc, on nous a seriné ça à Paris pendant toutes mes années d'études. Et puis après, la France de Mitterrand nous a expliqué qu'à cause de SES racisme, de tous ces gens-là, il fallait croire en la réalité de cette nouvelle solidarité entre, par exemple, les Juifs et les Arabes. Bon, ben, ça ne s'est pas fait, que je sache. Il y a 30 ans après, vous avez Zemmour qui est la bave aux lèvres. Vous avez les deux camps se sont incroyablement écartés. Et hélas, la grande immigration, la porte ouverte, le fameux regroupement familial est très largement due aux étudiants militants, notamment d'origine juive, des années 80. Je ne l'ai pas inventé. SOS racisme, tout ça. Ben voilà. Et donc, c'est quand même fascinant de voir que ces gens se plaignent d'une menace arabe, islamiste, frères musulmans, etc., tous les matins, aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ans, c'était plutôt leur père qui militait en faveur d'une immigration arabe à Paris, en disant...
Leur père, non. Attendez, moi, quand je vois... Julien Drey sur CNews qui vient nous expliquer. Alors, je regarde pas beaucoup CNews.
Attendez, mais vous n'avez pas eu 30 ans avec Julien Drey? Moi, si. Et à l'époque.
J'ai eu 15 ans avec Julien Drey, mais je m'en souviens très bien.
Julien Drey nous expliquait que par exemple, à l'époque, le grand type à la mode, et je le sais parce que j'ai dîné plusieurs fois avec lui à Paris, c'était Ibrahim Sousse, qui était musicologue, grand copain d'Arafat, et qui sillonnait la vie mondaine parisienne sur le ton. Oui, c'est fini cette vieille querelle entre juifs et arabes. Dieu merci, maintenant, nous sommes des gens évolués des deux côtés.
J'ai cru lire entre les lignes, d'ailleurs, que Ibrahim Sousse et Yasser Arafat étaient plus que copains.
Oui, je le sais, puisque moi j'ai entendu dire que sa femme était moins que sa femme.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà.
Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait. Moi, j'étais aux éditions du Seuil à l'époque. Les éditions du Seuil étaient dirigées par un type qui était traducteur d'Abdelkader. Bon, donc déjà, c'est très bizarre. Il y avait énormément d'auteurs, de romanciers juifs dans les éditions du Seuil, et notamment Elie Wiesel. Vous voyez, donc ça veut bien dire ce que je viens de dire, qu'il y a une époque soi-disant bénie entre 80 et 85 où l'intelligentsia parisienne a pensé, a voulu croire, a voulu nous faire croire que ces problèmes de rivalité juif-arabe s'étaient terminés et qu'on pouvait les faire venir en masse du Maghreb.
Non, mais alors c'est très intéressant parce que donc alors vous aviez 30 ans avec Julien Drey, moi j'étais à la sortie de l'adolescence puisque j'ai voté en 86 pour la première fois et ouais. Comme ça tout le monde saura mon âge et ce qui est très intéressant, moi je suis vraiment de la génération de la alors moi j'en faisais pas partie hein, je m'empresse de le dire, de la petite main jaune, la main de Fatma.
Ah ben voilà, touche pas à mon pote.
Mais... mais moi j'avais plutôt la carte de France avec écrit touche pas à mon peuple dessus. C'était la réponse du berger à la bergère en quelque sorte, puisqu'à l'époque le Front National de l'époque avait, on peut l'aimer ne pas l'aimer, peu importe, mais ils avaient au moins le sens de la formule. Mais quand même quand je vois donc ce Julien Drahi qui est complètement l'artisan de ça, c'était
oui, absolument.
Il était le cerveau. Mais attendez, de ça. Nous dire aujourd'hui,
il n'y a pas que la grande bourgeoisie juive. Moi, j'avais pour copain d'école à Sciences Po Gilles de Marjorie qui a été directeur du Crédit Agricole et à l'époque il était PSU.
C'est ça.
Oui. Voilà, c'est tout. C'est quand même les plus grandes familles de France qui sont couvertes d'argent, qui ont fini au CAC 40, et ils étaient PSU. Et donc, il faut pas dire que la France dont nous avons hérité, celle de Hollande, etc., est une France qui vient de nulle part. Elle vient de ces gens-là.
Absolument. Et oui, alors, bon, cela dit, c'est... je veux dire, ils ont pas mal manœuvré, puisque je veux dire, ils ont quand même su préserver leurs intérêts. L'argent est resté dans les mêmes mains. Donc finalement, la gauche qui défend les pauvres, bon bah maintenant on a un peu compris. Et ouais. ça me conduit à vous demander, est-ce que aujourd'hui l'Église est un secours dans tout ça?
L'Église, à mon avis, va être un secours pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure quand on parlait de la vieillesse et du sens de la vie et de la société d'automates que nous nous préparons. La société d'automates que nous nous préparons est une société qui est ennemie de la conscience, du quant à soi, de la réserve, du secret intime, et aussi de la compassion. C'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas très rentable. Si je me mets à la place du balayeur qui a l'air déprimé, je fais plus mon boulot dans les étages, vous voyez. Et donc cette société chrétienne qui est devenue après socialiste parce que c'était les mêmes valeurs en gros, est en train de disparaître au profit de la rentabilité, du presse-bouton. Regardez la réputation épouvantable que se sont taillées Delphine Ernotte et même Thierry Breton à la tête de France Télécom. C'est des suicides par dizaines, par centaines presque, résultent de cette attitude de mécanisation du travail. Il n'y a plus d'attention portée au pauvre type qui a l'air de ramer et à qui on ne dit pas rentre chez toi, on en reparle lundi, etc. On ne lui dit plus ça. On lui dit rentre chez toi, puis reviens plus. Et donc évidemment, le type qui était déjà dépressif, il se flingue. Mais au fond, justement, on en revient toujours à cette euthanasie, il se flingue, mais ça va être bientôt encouragé. C'est-à-dire que les gens qui sont incapables de s'insérer dans le tissu social au point d'avoir le même emploi du temps que les autres, les mêmes horaires, etc., puis le même imaginaire, ces gens-là, on va leur dire, écoutez, ou bien vous trouvez un papa gâteau qui vous entretient, ou bien vous vous flinguez, mais on ne peut plus, nous, vous envoyer du RSA tous les mois. Et donc, c'est ce qui se passe au Canada. Il y a un certain nombre de gens qui finissent par demander leur euthanasie pour des raisons purement économiques. Enfin, qui sont transformés plus ou moins en dépression. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous n'avez pas un radis, vous êtes forcément un peu moins optimiste que si vous avez de quoi vivre. Et donc, les Canadiens ont commencé, au compte-gouttes, hein, même en Belgique apparemment, à entendre le discours qui consiste à dire, bah, écoutez, si vous n'avez plus les moyens de vous assumer, assumez au moins votre mort.
Alors, est-ce qu'il y a, vous qui êtes un optimiste, est-ce qu'il va y avoir un reflux que moi
Oui, alors
j'appelle un
justement, c'est
reflux abrogatif?
j'avais commencé à répondre à votre question sur le christianisme. Je pense que, et je ne suis pas le seul, puisque je l'attribue à mon devin Léon, je pense que le christianisme, sous sa forme un peu bas de gamme, pas bas de gamme, mais disons sa forme commune, qui est le confucianisme, c'est-à-dire cette attention à la conscience individuelle et à autrui, à être bienveillant avec autrui au sens immédiat. C'est le contraire des socialistes qui, eux, sont bienveillants pour tout le monde en Afrique, mais pas à l'égard de leurs voisins. Et donc, le christianisme social, si on peut dire, qui est au fond le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, va de nouveau se répandre, forcément se répandre dans la Chine, parce que les Chinois comprennent très bien intimement que le système merveilleux qui multiplie les gratte-ciel éclairés par des LED toute la nuit et cette espèce de fête permanente de féerie qu'est la ville chinoise aujourd'hui, ca ça cache un grand vide intérieur. Mais ce grand vide intérieur, ils vont vouloir le remplir fatalement. Un jour ou l'autre, ils vont se mettre à lire, par exemple, les pensées de Confucius, la vie en tout cas, même le bouddhisme ordinaire. Et donc, on va finir par se retrouver avec une société qui peut devenir altruiste d'un coup. Parce que l'altruisme sera une façon d'affirmer l'individu contre la masse, d'affirmer le sens de la vie contre la vie qui n'a pas de sens. Et je voudrais attirer votre attention sur une prophétie de mon ami Léon, qui dit qu'un jour ou l'autre, les témoignages de ces gens qui faillissent mourir et qui sont réveillés in extremis par les réanimateurs, ces témoignages seront interdits sur
Oui,
YouTube.
je me souviens de ça. Oui, effectivement, les expériences de mort imminente, etc. Vous vous dites qu'un jour, ces récits d'expériences de mort imminente seront interdits.
Oui, parce que je pense que c'est vraiment l'une des choses qui jette le plus grave discrédit sur la société presse-bouton. Puisque, en gros, quand vous... C'est un peu la même chose que pour les paradis artificiels des Beatles dans les années 70. C'est-à-dire que si vous êtes sous LSD toute la journée, vous vous dites que la réalité, c'est là-bas, c'est pas ici, hein.
Oui, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand l'effet ne se fait plus ressentir,
Ah oui.
l'atterrissage est quand même pénible.
Oui, sauf que je vous rappelle que tous les témoignages de mort imminente récupérés sont unanimes. Les gens cessent d'être comme ils étaient avant. Et ils deviennent bien plus altruistes, bien plus je m'en foutiste pour toutes les choses sans intérêt. Ils pensent que il y a bien plus important que de se faire un nid douillet dans une société économique avec deux voitures dans le garage et une piscine. Et parfois, il y en a qui laissent un peu leurs affaires économiques à volo parce qu'ils ont vu l'essentiel ailleurs. Et au fond, quand vous regardez l'histoire de l'Occident, y compris et surtout évidemment celle de la Russie, elle voit, nous voyons sans arrêt l'essentiel ailleurs. Et c'est de cela qu'on voudrait nous priver. C'est ça qui est quand même terrible. J'attire l'attention de ceux qui nous écoutent sur un petit morceau vidéo que j'ai fait il y a quelques années, il y a 5, 6 ans, et qu'on trouve encore sur YouTube sous le titre L'Europe des seins nus sous les balcons.
Oui, je me souviens très bien.
Voilà. Et bien ce En gros, ce qui était assez amusant, c'est que dans la société du 18e, 19e siècle, et puis donc avec la révolution industrielle, grosso modo, parce que c'est parallèle, on a assisté à un développement des bourses du travail, des bourses de l'industrie, tout ce qu'on veut, avec des bâtiments verre et acier de l'époque, un peu inhumains. C'est le début des locomotives et des manufactures, etc. Et pendant ce temps-là, on ornait tous les frontons de filles à poils qui représentaient la vertu, la tempérance, avec des voiles partout. Donc il y avait une espèce de sensualité qui s'affichait sur nos murs pendant que la société devenait implacable. Eh bien, cette sensualité, c'était tout l'imaginaire européen, en gros. Vous aviez tout. C'est-à-dire, au fronton des académies de musique, vous aviez l'âme de Mozart qui jouait avec des angelots. Enfin bon, il y avait plein de choses de ce genre qui nous rappelaient que nous n'étions pas que des animaux qui produisaient. Or, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais nous avons invité des cultures étrangères, des cultures du Maroc et d'Algérie, par exemple, qui supportent pas les filles à poil sous les balcons.
Oui, mais sans aller jusque-là, vous pourfendez beaucoup dans votre livre. Et je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec vous là-dessus. Les Anglo-Saxons, mais
Ouais.
bon, le puritanisme anglo-saxon, une des raisons pour lesquelles moi j'hésite à aller sur YouTube, c'est qu'il faut faire très très attention à ce qu'on dit, parce que le puritanisme anglo-saxon
Oui.
cache ce sein que je ne saurais voir.
Entre parenthèses, c'est valable aussi pour l'intelligence artificielle. Je vous signale, je la pratique beaucoup puisque je fabrique désormais du cinéma par le biais de l'IA. Vous ne pouvez déjà pas tourner au clavier un petit court-métrage façon, comment on appelle ça, nouvelle vague. Vous savez, la fille qui sort de la douche, qui rattrape sa serviette, on
Oui.
voit un demi-sein pendant un instant. Mais ça, c'était courant dans le cinéma français des années 60. Eh bien, aujourd'hui, l'IA vous l'interdit. Donc, c'est fascinant. Et l'IA, donc, américaine, hein. Alors,
Bien
ce qui est
sûr.
assez intéressant, c'est que l'IA américaine, y compris la plus soi-disant en vogue, en vue, qui est Grok, la maison de Elon Musk, ça vous interdit ça de plus en plus. On ne peut plus voir la moindre nudité, même académique, même un type sur une stèle. Par exemple, je me suis vu reprocher, des tableaux de Botticelli.
Bon, il faut dire qu'ils se sont tellement fait taper sur les doigts avec les histoires de gens qui déshabillaient des gosses sur les
Oui,
sur
mais on peut très bien séparer les deux.
Oui, non, mais bien sûr qu'on peut très bien. Bien
Il est
sûr.
très très facile de dire on déshabille personne. Mais en gros, le truc c'est que on ne peut pas. C'est très facile de dire on ne peut pas entrer une photo de l'extérieur et la traiter, la déshabiller, etc. C'est très très facile. En revanche, si on fait de la génération, comme ils appellent ça, de la génération pure. Textuel, en disant voilà, je veux. Et là, je vois pas en quoi un adulte devrait être limité dans son imagination. Enfin, c'est invraisemblable.
Ah ben de toute façon, l'intelligence artificielle n'a pas été faite pour stimuler votre imagination, bien au contraire.
Alors, c'est pas entièrement vrai. On pourrait en parler, mais c'est pas le sujet du jour. Mais moi, je pense que c'est quand même un extraordinaire ballon d'oxygène. Vous avez quand même une culture historique, En gros, vous pouvez faire du Cécile B2000. Je l'ai fait d'ailleurs ici pour un château fort d'ici, une association. J'ai créé au clavier des scènes de chevaliers qui débarquent avec leur cheval dans les salles d'armes, etc., avec des enfants qui jouent, des chiens qui entrent et qui sortent. Tout ça dans les lieux mêmes que j'avais photographié vide au préalable, c'était absolument extraordinaire. Ça fait du cinéma en technicolor, avec une réalité parfaite. Les mouvements de caméra sont... Il fallait autrefois louer une caméra à 1 million d'euros pour tourner un film où on se déplace le long d'une bagnole qui roule. Maintenant, c'est fini. Les caméras virtuelles se déplacent avec la voiture. Donc on est vraiment entré dans une période assez séduisante où les gens comme moi qui ont toujours rongé leurs freins comme cinéaste putatif, j'aurais pu être cinéaste un jour ou l'autre, j'ai été adapté 2 fois pour le cinéma mais jamais tourné, et donc ça c'est une frustration. Et ben là je vais probablement, là dans les prochaines années, je vais probablement combler cette frustration en écrivant et en tournant, donc de mon clavier, un petit court-métrage de 20-25 minutes que je vais essayer de rendre le plus intelligent possible, et c'est de l'art, c'est de l'art. Et tous les jeunes gens qui ont du talent dans leur tête et qui sont des scénaristes nés ont désormais les moyens, en moins de 5000 euros, de faire un film de quasi long métrage avec une excellente image, excellente.
Oui, oui. D'ailleurs, vous dites, non, enfin, vous présentez une scène dans votre livre où Léon, vous mettez en scène Léon dans une armure
Oui, oui, absolument.
C'est vraiment très intéressant. J'aimerais bien, excusez-moi. J'aimerais bien votre opinion. Quelle est votre opinion sur le catholicisme traditionnel aujourd'hui, et notamment sur, vous avez certainement entendu parler de cette histoire des sacres.
Oui, bah écoutez, des sacres, à quoi faites-vous allusion?
Des sacres d'évêques de la
Patate. Ah oui, bah ça c'est pas une affaire très nouvelle, puisqu'il y avait les évêques nommés à icônes, etc. Cette espèce de schisme rampant ne date pas d'aujourd'hui. Le problème c'est que on a un pape qui est depuis Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II le faisait à un niveau... sa présence au monde était quasi mystique, parce qu'il avait la mission de lutter, de terrasser le communisme, etc. Donc il y avait un côté lutte contre Satan. Et pour les successeurs, on ne peut pas en dire autant, sauf le malheureux Ratzinger, qui a été poussé dehors.
Bien sûr.
Moi, je suis convaincu que Ratzinger... Sûr. Oui. Et donc, le pire de tous étant l'affreux pape Benoît, pas Benoît,
François.
François, qui a ouvert les portes du temple à toutes sortes de marchands, et de marchands notamment de médicaments, comme vous le savez. C'est quand même inadmissible qu'un pape vous demande d'aller vous vacciner avec le vaccin Pfizer.
Il a même viré des gardes suisses.
Il y a ça. Ensuite, après, oui, il y a l'autre chose qui est inadmissible, c'est... c'est l'aval explicite qu'il a donné au comité de Davos lors d'une lettre, enfin en écrivant une lettre qui n'est pas à proprement parler une encyclique ou en droit canon, je veux dire, mais il a écrit une lettre assez longue pour montrer à quel point Davos était préoccupé du bien de l'humanité. Il fallait soutenir ces gens-là, etc. C'est ahurissant de prendre parti à ce point-là. Même s'il avait un doute favorable à leur sujet, une autorité morale comme celle du pape se doit d'être au-dessus de tous ces jugements et surtout de tous ces soutiens. Un pape ne soutient personne. Un pape hoche la tête. Un pape dit, par exemple, il aurait dû dire le jour du vaccin, écoutez, vous, en tant que chrétien, vous avez une conscience, votre conscience vous dit probablement où est l'attitude juste. Et moi, je ne vous en dis pas davantage. Normalement, le pape devait faire ça.
Ah oui, non, mais lui, il a été mis là pour faire autre chose.
Oui.
Je veux dire, vous savez, il y a très peu de temps, j'ai postulé pour un job à Radio Vatican. j'ai postulé pour plein de raisons. Et, quand vous faites toute la procédure de recrutement,
oui.
Vous avez... en fait, vous vous retrouvez dans une procédure de recrutement digne des grandes entreprises américaines. D'abord, Radio Vatican, ça n'existe plus, ça s'appelle Vatican News maintenant. Ça a été complètement c'est, je veux dire, vous postulez pour Procter & Gamble, vous avez exactement les mêmes formulaires à remplir. C'est terrible. Ça a été complètement noyauté. Moi, je pense effectivement que le tournant a eu lieu au moment de Benoît XVI.
Oui.
Je pense que la.
Il y a eu deux tentatives pour rétablir les choses. Il y a eu Jean-Paul Ier qui avait clairement dit c'est fini ces conneries. Et 15 jours après, on lui a dit ben non, ça continue puisqu'on l'a tué.
33 jours.
33 jours.
33 jours, oui, parce que c'est la seule erreur que j'ai relevée dans votre livre, si je puis me permettre. J'espère que vous m'en voudrez pas.
Non, je vous en prie.
Oui, voilà, c'est 33 jours. C'est une histoire dont je ne sais pas si on en connaîtra un jour les tenants et les aboutissants. Mais je crois que bon, Jean-Paul Ier, qui était très tiers-mondiste tout de même, avait décidé de remettre de l'ordre dans les finances, et ça, c'était pas acceptable.
Ben oui.
Ça,
et en
c'était pas
fait,
acceptable.
Les finances étaient en désordre, sont restées en désordre le temps de chasser le communisme, mais même Jean-Paul Ier, dans les deux ou trois dernières années de son règne,
Jean-Paul II, vous voulez dire? Jean-Paul II, vous voulez dire?
Jean-Paul II, pardon. Jean-Paul II a commencé à dire, écoutez, c'est vrai, il y en a marre, parce qu'il a fait le boulot pour le communisme, etc. Puis à la fin, le boulot ayant été fait, il a dit, écoutez, il va falloir quand même remettre de l'ordre. Et là, bizarrement, pof, à l'IAXA.
Alors, Aliaxa, c'est une histoire aussi, c'est une histoire très intéressante parce que bon, alors Aliaxa, on a beaucoup accusé, on a accusé les Bulgares, on a accusé tout ça. Bon, je veux dire, ça a été, c'est là aussi, c'est une histoire qui serait.
Attendez, un musulman qui sort de Turquie, de l'Istanbul, en plus à l'époque, et forcément, il a la CIA derrière.
Alors, on a accusé le KGB.
Ben non, mais justement, moi, à mon avis, c'est un truc de la CIA.
C'est bien
qu'on
possible.
Voulait pas, on ne voulait pas que le pape remette de l'ordre dans la mafia des finances vaticanes. Puisque, une fois le trésor en question mobilisé contre le communisme, une fois que ça a été gagné, cette bataille-là, il s'est dit, ben tiens, tant qu'à faire, essayons d'assainir les finances avant de partir. Ben,
oui, mais attendez, Alexa, c'est 1981.
Non, mais c'est après la chute du communisme, que je sache, non?
Non, 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 Aliaxa, c'est
Non?
1981, c'est le 13 mai 1981.
Oui, mais ça coïncide dans la chute dans l'effondrement du régime soviétique, le 80 n'est pas le. C'est plus tard,
non,
à peine plus tard.
Non,
à
non,
peine plus tard.
C'est beaucoup plus tard. C'est-à-dire que la chute. En 81, l'Union soviétique, c'est encore Brejnev. La Pologne est en plein état de siège.
D'accord. Mais
donc.
Le moment où le travail est fait, c'est quoi? C'est 84, 85?
Non, non, c'est 81, c'est le 13 mai
Ah bon,
81.
d'accord. Donc, bon, c'est pas. Donc, l'attentat contre d'Ali Aksa n'a pas de lien, probablement, avec ça. Mais moi, à mon avis, c'est un coup de la CIA qui
Ça, c'est pas impossible, oui. Oui, ça, c'est pas impossible pour. Je pense qu'il était. Après. C'est pareil, ce sont des choses. Et alors le problème, c'est que vous savez que Aliaxa est toujours vivant,
Oui.
qu'il est sorti de prison depuis très longtemps, qu'il coule des jours heureux en Turquie, et que malheureusement de temps en temps, il est interviewé par des radios italiennes, des télés italiennes, etc. Je l'avais entendu une fois parce que je m'étais intéressé au cas Manuel Orlandi. Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, oui, je sais, oui, mais je sais, oui.
C'est une voilà une femme qui avait été une jeune fille qui avait été enlevée je pense que ça aussi c'était bon bref ça nous amènerait trop loin et comme il raconte absolument n'importe quoi il est très très difficile de savoir de connaître les tenants et les aboutissants
Oui, c'est sûr. C'est le moyen d'égarer les soupçons, c'est de les multiplier.
Ouais. Mais effectivement, Aliaxa, c'est un cas tout à fait à part. Et alors
Enfin, en tout
aujourd'hui,
cas, pour revenir à votre question,
ma
on a
question,
essayé de
voilà.
nous voler la chrétienté, on a essayé de nous la voler. Moi, je suis convaincu que la chrétienté, impossible à réduire, c'est plutôt du côté de l'orthodoxie, désormais. Et c'est de là que viendra une espèce de renouveau charismatique, de retour aux origines du christianisme. L'Asie va probablement aider au phénomène. Et puis, alors, je pense aussi qu'il va y avoir, quand je vous parlais d'âge d'or dans ce petit livre, je suis sûr qu'il va y avoir un nouveau paradigme assez global, assez miraculeux, sans grand phénomène dans le ciel, hein. Mais le phénomène auquel je m'attends, comme beaucoup, c'est l'énergie pas chère et illimitée. Et propre en plus. Ça change tout. Ça change tout. Déjà, si ça apparaissait, et ça apparaîtra en très peu de temps, parce qu'à mon avis, c'est déjà dans les cartons depuis 5 ou 10 ans. Donc, quand la vraie énorme nécessité va se faire sentir, bizarrement, les chercheurs vont sortir des solutions quasi industrielles prêtes à l'emploi. Et alors, évidemment, ça ne concernera pas la fabrication des objets en plastique qui, eux, dépendront toujours du pétrole. Mais en revanche, pour le mouvement, pour tout, pour les déplacements, etc., il faut s'habituer à l'idée que l'énergie ne coûtera plus grand-chose. Mais c'est considérable. Déjà, ça va réduire la dette des trois quarts. Ensuite, le choc sur la croissance des États, y compris des États médiocres, va devenir énorme. Et bizarrement, d'ailleurs, c'est peut-être les grands États qui en bénéficieront le moins. Et donc, on va assister à une espèce de phénomène planétaire, pacifique, mais tellement bouleversant qu'on sera obligé de recaler en quelque sorte notre existence là-dessus. Ça change tout, littéralement tout.
Oui, et vous croyez que les pétroliers, tout ça, vont se laisser faire?
Mais ça, on ne leur demande pas leur avis.
Alors ça,
Je veux dire, il y a un
j'espère tant bien.
moment où quand, si vous mettez à sac tous les sièges des grandes compagnies dans toutes les capitales, ben je vais vous dire, les pétroliers n'ont rien à dire.
Vous croyez vraiment le peuple capable de se révolter?
Il l'a déjà montré qu'il était capable quand il a faim notamment, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'efforce de faire en sorte qu'il ait de moins en moins faim, qu'il soit moins en danger à cet égard, en proposant par exemple, en annonçant le revenu universel comme l'a fait Musk. Musk voit très bien que l'un des obstacles à ces entreprises d'action sur le réel, c'est le désordre. Et donc, il a compris que pour apaiser le désordre, il fallait nourrir les gens. C'est le coût du pain et des jeux. Alors, cette idée selon laquelle ce sont les robots qui vont faire le boulot et vous resterez à regarder les matchs de foot à la maison est une idée à la fois compréhensible du point de vue de Musk et terrifiante du point de vue philosophique. Parce que si les gens ne deviennent que passifs devant le feuilleton du soir et ne sortent pas pour faire autre chose, pour inventer autre chose, pour créer, pour construire, eh bien, on est foutu. Et donc, l'autre chose aussi, c'est que cette fameuse énergie hyper pas chère pourrait, hélas, accentuer cette passivité de l'humanité devant des tâches matérielles de plus en plus faciles à accomplir.
Oui, mais il y a le besoin de se sentir utile.
Alors, ben, c'est bien ça que j'appelle la philosophie. Les hommes sont convaincus d'avoir un objet, leur existence a un objet. Ils sont pas nés pour rien et ils meurent pas pour rien. Et donc ça, cette certitude est au fond notre meilleure garantie contre une société implacable. Vous me dites, il n'y aura pas de révolte. Si, au bout d'un moment, quand les gens voient qu'ils sont des numéros, ils se révoltent forcément. Ils se reconnaissent entre eux comme des numéros rebelles et ils finissent par avoir la peau du... D'ailleurs, c'est toutes les histoires de fiction, de science-fiction À propos des sociétés totalitaires, ont la même fin. Des rebelles se reconnaissent au premier regard et montent à l'assaut de la citadelle. Et je pense que la rébellion sera fortement aidée parce que la citadelle va s'effondrer d'elle-même. Et quand je parle de citadelle, je parle de la citadelle américaine. C'est elle qui est au fond la source de nos ennuis depuis un siècle. C'est elle qui va s'effondrer parce qu'elle est trop lourde, comme les diplodocus qui n'arrivaient plus à se nourrir. Et donc voilà, en gros, les Américains sont les pachydermes, sont les dinosaures de notre évolution moderne. Ils vont devoir tomber à genoux et des sociétés intelligentes. C'est pas pour rien que l'IA se répand. Ils cherchent d'ailleurs à la réunir, à la monopoliser dans un coin, leur coin de la planète, mais c'est foutu. Moi, si j'ai envie de créer une IA à la dimension du Languedoc, il me suffit d'acheter 4 machines en plus et j'inonde la région entière d'une base de données incroyablement puissante sur les méthodes d'agriculture, surtout sur la géologie du pays où je suis. Et donc, cette IA qui se répand à travers la planète entière, c'est la même chose que Internet se répandant à travers la planète entière. Ce sont les graines du savoir et de la réflexion qui ont été inoculées. Et donc, je pense que la nature, enfin l'objet de l'évolution tel que nous le vivons désormais, c'est la rupture des grands réseaux. Comme les moyens de la fécondité ont été distribués partout dans le monde, il faut que les grands réseaux soient divisés. Divisés, divisés, c'est-à-dire qu'il y ait plus de cap transatlantique et qu'on ne prenne plus les décisions en téléphonant à Washington en 15 secondes. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Vous avez vu que même les élections françaises sont calculées à Austin, Texas.
Bien sûr, bien sûr. Non,
Donc,
ça, les élections ne sont aujourd'hui, et puis pas qu'en France, je veux dire, les votations en Suisse, c'est la même chose.
ouais.
Donc,
Mais malheureusement, enfin, enfin, malheureusement pour eux, je pense qu'il est inscrit dans les gènes de la situation que ces grands ensembles, ces grands échanges intercontinentaux, y compris dans le domaine de la pensée d'ailleurs, disparaissent. Moi, je peux vous le dire en tant que agent culturel dans ma génération, mettons de 75 à nos jours, j'ai écrit des livres, j'en ai commenté, j'en ai traduit. J'ai essayé de maintenir un cap d'écrivain français qui avait lu Bernanos, et Victor Hugo et même au-delà, Montaigne, etc. Et ce cap était de plus en plus difficile à tenir parce que mon propre éditeur à Paris me disait, mais pourquoi tu ne nous fais pas un thriller? Vous voyez, et donc, quand votre propre éditeur, pour faire du fric la saison prochaine, parce que vous êtes doué, vous écrivez bien des histoires, vous dit, allez, je te donne 10 000 en plus et tu me fais un thriller. Combien de fois j'ai entendu ça? Vous voyez, c'est effrayant. On parle de la tour Montparnasse qui est inhabitable pendant 5 ans désormais parce qu'ils veulent la désamianter. Mon dernier souvenir de la tour Montparnasse, vous savez quoi? C'est au 62e étage, donc juste sous le restaurant, les bureaux de Bernard Fixot.
Ah oui,
Les
vous en
bureaux de Bernard.
parlez.
Alors, ils étaient 6 ou 8 dans cette maison d'édition à la con, qui dominait Paris et la moitié de la France, parce que c'est quand même très haut, avec les vitres fumées. Avec un silence presque épouvantable, vous avez l'impression d'être en avion, quoi. Et ce type, vous recevez comme éditeur parce qu'il distillait la pensée éditoriale future comme un véritable cuisinier. Alors, la chose intéressante, c'est d'où il sort. Vous le savez, il était ancien coursier de chez Hachette. Il a racheté des maisons d'édition, pris des postes, etc. Mais d'où me parlait-il de cette tour, du sommet de cette tour? Il me parlait à moitié de New York, car il habitait à Central Park. Le type venait 2 jours par semaine à Paris pour régler ses affaires
En
parisiennes. Et
Concorde.
puis, et voilà, il repartait à Central Park. Et qui a-t-il épousé? Parce que c'est vraiment une fable, un peu comme les fables de Roald Dahl, vous savez. Il a épousé la fille de Giscard d'Estaing.
Vous en parlez un tout petit peu dans votre livre, je crois,
Ben
Portrait
oui.
de Marianne, il me semble que
Et
vous
oui,
en dites quelque chose.
vous avez donc là un condensé de la France qu'on a essayé de nous infliger. Et bien cette France qui habite au sommet de la tour Montparnasse et qui nous regarde comme des fourmis, il faut qu'elle disparaisse. C'est simple.
Vous avez évoqué tout à l'heure les robots et vous avez dit un truc qui m'a fait venir tout d'un coup une idée. Peut-être la trouverez-vous un peu sotte, mais on est en pleine. Vous ne pouvez pas l'ignorer, ou alors vous vivez, ou alors Campagnol a été coupé du monde.
Ouais.
On vit en pleine Coupe du Monde actuellement.
Oui,
Et moi,
oui,
mais pourquoi on ne ferait pas plutôt jouer au football des robots? Ça coûterait bien moins cher que de payer à prix d'or des footballeurs.
oui. Mais
Et en
non, parce que
plus.
vous avez bien vu que c'est la grande illusion du tiers-monde qui est l'une des rares voies de salut social, je veux dire, d'enrichissement, etc., qu'ils ont trouvé, c'est ça, c'est le sport, un peu faire l'acteur comme Omar Sy, mais ils n'ont pas beaucoup d'autres débouchés. Et je parle là de l'Afrique noire, parce que le Maghreb, en fait, il faut être quand même très très nuancé. Il n'y a pas que des profiteurs. Les jeunes issus de la communauté maghrébine se sont assez bien intégrés. Beaucoup d'entre eux se sont assez bien intégrés à l'univers des affaires et de la technologie et de l'ordinateur, etc. Il y a des types assez remarquables qui programment très bien et qui sont issus d'une famille maghrébine. Donc eux, sur le plan technologique, se sont plutôt bien intégrés. Mais le foot reste quand même le moyen d'intégration le plus rapide, le plus caricatural, le plus médiatique pour toutes ces populations, disons, en dessous de la ligne du Sahel, quoi.
Nous arrivons au terme de cet entretien, Christian Combaz, et encore une fois, je vous remercie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque votre livre se termine de manière optimiste,
Oui,
qu'est-ce que
oui,
vous
oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'optimiste de ce qui nous attend? Parce que là, ce qui nous attend cet été, c'est l'euthanasie, c'est la canicule plus ou moins réelle quand elle n'existe pas, on l'invente. Enfin voilà,
Ouais.
c'est les réalités sont assez sombres. Et vous êtes un homme qui sait espérer.
Oui, mais en même temps, il y a aussi une part de logique dans ce que j'espère, c'est que je fais partie des gens qui ont un peu lu, qui ont un peu observé, et je me souviens d'avoir entendu je ne sais quel indien dans un film de cow-boy qui disait à un colon qu'il fallait imiter les cactus qui, lorsqu'ils commencent à pencher après 3 mètres, 3 mètres 50, commencent à pencher dangereusement d'un côté, au point qu'ils vont se rompre, eh bien, ils poussent un rejet de l'autre côté, pour rétablir le poids de l'autre côté. Et c'est pour ça que les cactus ont des bras successifs, c'est qu'à chaque fois, ils ont manqué de tomber d'un côté. Eh bien là, en ce moment, l'Occident est en train de risquer de tomber d'un côté. Donc il va pousser un rejet de l'autre côté.
Eh bien, écoutez, je vous propose de nous quitter sur ces cactus et sur le fait que la nature est extrêmement bien faite.
Oui, la providence, c'est la nature. C'est l'autre nom de la nature.
Absolument. Elle est et la providence ne s'y trompe jamais, nous sommes d'accord.
Exactement.
Merci Christian Combaz.
Merci à vous.